puis c'est jardin suspendu, bien c'est la marque de fabrique.
Plus on se rapproche des plantes, plus on a encore envie de s'approcher, et quand on rentre dans la nature, c'est tellement immense.
Et là, ça a été le départ d'une vraie aventure.
Les jardins suspendus, Olivier Horry.
Bienvenue dans les jardins suspendus où je suis très ravi, très content de vous recevoir cette semaine encore pour un itinéraire poétique, chronique, musique, colchique, pique-nique, technique, bah oui, il y a Sylvain, enfin, tic-tic-tic-tic-tic, voilà, on va peut-être commencer par le haïku. Le vent s'acharne sur le pré plein de vagues, les hautes herbes. Le vent s'acharne sur le pré plein de vagues, les hautes herbes. Antispécisme et écologie. Le spécisme affirme qu'il existe entre les espèces des différences tangibles car elles ne peuvent se reproduire entre elles. Cette représentation paraît dans la Genèse biblique, l'antique récit de la création en six jours. Dieu crée les plantes le troisième jour, les êtres marins et les oiseaux le cinquième jour, les autres animaux et l'homme, homme et femme, le sixième jour. Créés le même jour, les humains et les autres animaux ne sont pas égaux. Les humains peuvent soumettre la terre, devenir maîtres des plantes et des animaux. Adam, dans un second récit, nomme les animaux et ne trouve pas parmi eux un être qui lui soit accordé. Les antispécistes prétendent identifier l'homme et l'animal en vertu de leur commune souffrance. Il reproche à l'homme de se servir des animaux et de la totalité de son environnement comme on se sert d'outils, de machines et de matières premières. Il est difficile cependant de ne faire aucune différence entre les humains et les animaux pour reprocher ensuite aux humains des actions dans la nature que nous ne reprochons pas aux animaux. Les animaux se nuisent entre eux et détruisent leur environnement quand ils abondent. Un antiraciste ou un antisexiste est un humain, souvent dominé, qui reproche à juste titre à d'autres humains, souvent dominants, de ne pas le traiter comme ils se traitent eux-mêmes. Mais l'herbe se plaint-elle de l'antilope ? L'antilope se plaint-elle de la lionne et la lionne de l'homme ? Et de quel méfait, de quel crime qu'elle ne commette pas elle-même. La lionne a-t-elle souci de l'antilope et l'antilope de l'herbe qu'elle dévorerait bien toute? Seul un humain peut vous écrire tout ça et réclamer pitié pour toute la création, prier pour l'éradication de toute la souffrance possible et le maintien d'un environnement propice à tout ce qui vit.
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle.
Streets of
Scott McKenzie, San Francisco, vous aurez reconnu une chanson de l'abbé, une chanson de beatnik, et presque un hymne d'ailleurs de beatnik. Sois sûr que tu porteras toujours des fleurs dans tes cheveux, si c'est pas magnifique. Un syncrétisme d'ailleurs religieux tout à fait étonnant, dans une voiture photographiée en 1967, on va dire, on découvre au rétroviseur, suspendu ensemble, un attrape-rêve des... Native American et puis un chapelet catholique. Ça va très bien ensemble, pourquoi pas, tiens. Alors, c'est des États-Unis, aux États-Unis, que j'ai été chercher le bouquin qui va suivre. Jack London, le vagabond des étoiles. Faut-il présenter Jack London ? Non. Si ? Ah bon. Il est né en 1876 et mort, malheureusement, assez jeune. En 1916, il a eu le temps, en ses 40 ans, dans ses, au cours de ses 40 années, de vivre plus de choses que n'en vive le commun des mortels. Il a commencé à bosser très tôt, dans des conditions très dures. Il fallait qu'il fasse vivre sa mère, le père, le nouveau père, son beau-père, atterrit là un petit peu par hasard. Il a connu tout ce qui se fait de plus dur. Les journées de 13 heures à l'usine, les bateaux destinés à la banquise pour aller chercher du phoque pour les belles fourrures des New-Yorkaises de Manhattan. Enfin voilà, il en est devenu socialiste, ça c'est plutôt une bonne chose. Il en est devenu militant et puis il est parvenu à se cultiver lui-même, un petit peu grâce aux bibliothèques gratuites, un petit peu grâce aussi à des amis qu'il a rencontrés dans la haute société et qui lui ont donné quelques bons conseils. Et Jack London, évidemment, c'est pour un lecteur comme moi et comme vous, j'espère pour vous, c'est quand même beaucoup de plaisir. Jack London, eh bien, c'est parmi les premiers livres que j'ai lus, c'est Cro-Blanc, c'est L'Appel de la forêt. Évidemment, je me rappelle de ces lectures où, qui étaient parfois un tout petit peu trop compliquées pour moi et j'avais un peu du mal à suivre. Alors je relisais et puis je finissais par goûter L'Appel de la forêt et la compagnie de Cro-Blanc. Je vous ai choisi, par dans l'œuvre de Jack London, eh bien son tout dernier opus. Je ne sais plus s'il l'a lui-même vu publié. En tout cas, donc, Le Vagabond des étoiles, un écrit... Alors qui a deux facettes. D'un côté, il nous présente le milieu carcéral américain au tournant du siècle, autour de 1900, et puis donc un milieu carcéral absolument terrifiant. Et puis, Jack London nous fait part de ses croyances en la réincarnation. Et c'est tout à fait étonnant, je n'entre pas ici dans les détails, je n'en aurai pas le temps, mais sa manière d'aborder la question de la réincarnation est particulièrement convaincante. Le Vagabond des étoiles, Jack London, donc. Toute ma vie, j'ai eu le sentiment d'avoir connu d'autres époques et d'autres endroits, et j'ai eu conscience qu'il existait en moi d'autres personnes. Et il en va de même pour toi, lecteur, tu peux m'en croire. Si tu ravives les réminiscences de tes premières années, tu te souviendras de cette impression troublante comme d'une expérience de ta propre enfance. Ton être n'était alors pas encore fixé ni cristallisé, il était malléable et fluctuant, tandis que se développaient ta conscience et ton identité, et ce processus de formation était aussi un processus d'oubli. Tu as beaucoup oublié, lecteur, et cependant, en lisant ces lignes, tu pourrais te remémorer vaguement des images floues que tes yeux d'enfant ont vues et qui témoignaient d'autres temps et d'autres lieux. Aujourd'hui, il te semble que c'était des rêves. Et cependant, si ce n'était que des rêves d'enfant, d'où tiraient-ils leur substance ? Après le haïku du vent et la chronique, encore une fois énervée, la musique c'était Scott McKenzie, San Francisco, be sure to wear flowers in your hair, sois sûr de porter des fleurs dans tes cheveux, j'en parlais tout à l'heure. C'est un single qui a tout éclaté en 1967, l'année du Summer of Love sur la côte californienne. Le livre c'était Le Vagabond des étoiles de Jack London dans une nouvelle traduction admirable chez Libertaria. Voilà, il me reste à remercier Landy Unger, l'ange musical de ces jardins suspendus, et Sylvain qui réalise tout ça. Ciao, ciao.